c'est des faiblesses.
Si, je suis un petit peu trop perfectionniste, ça oui. Ouais. Il me faut toujours le meilleur, sinon rien du tout. Si c'est trop limite, je veux dire, laisse tomber. Mais là, cet entretien, je veux dire, là, je le sens bien, là, tu vois. J'ai l'impression que ça se passe pas mal, non ?
Libre Radio, les vrais grands entretiens.
Olivier, donc, bienvenue à toi. Tu es là parce que nous voulions parler d'Alternativa. Et peut-être commencer justement par resituer comment est né Alternativa et quel a été ce premier événement qui était un événement incroyable puisqu'il avait réuni toutes les personnes dont tu as parlé tout à l'heure sur 2 jours et demi à Plein Palais et dans les atours de Plein Palais. C'était en quelle année ?
C'était donc septembre 2015. En fait, l'idée est partie du Pays Basque. Une année auparavant, les Basques à Bayonne avaient organisé la première Alternativa, d'où le nom, Alternativa Bayonne, avec l'intention de commencer la mobilisation pour la COP21, justement, comme je disais tout à l'heure, avec l'idée que plutôt que de faire seulement une manifestation ou des conférences qui finalement intéresse une partie de la population, mais pas tout le monde, que ce serait beaucoup plus porteur de faire un village dans la ville, occuper les places, occuper les rues, avec toute initiative locale qu'on pouvait penser positive par rapport au climat, que ce soit la mobilité, l'agriculture de proximité, les énergies renouvelables, le recyclage, y compris les... jusqu'à des aspects culturels, les transitions intérieures, le yoga, enfin tout ce qu'on peut imaginer, un peu contre qui n'est pas dans le consumérisme, individualisme dominant. Donc ça a été un succès extraordinaire. Nous ici à Genève, on était déjà en train d'essayer de chercher quelque chose comme ça avec les assises transfrontalières, une alternative au modèle de développement de notre agglomération. Et quand on a vu ce qui se passait là-bas, on s'est dit, ouais, c'est la formule pour nous. Il y a plus d'une 100 villes en France, la plupart, qui ont aussi été qui ont suivi cette voie. Je crois qu'en tout, c'est quelque chose comme 300 000 personnes, on pense, qui ont fréquenté un Alternativa ou l'autre. Et puis, en tout cas, à Genève, c'était un grand succès. Et puis maintenant, donc on a continué l'année dernière, on a fait quelque chose de beaucoup plus modeste parce qu'il ne s'agit pas de faire retourner toute l'alternative et toute la ville chaque année comme ça. Et puis cette année, on va le faire aussi. Mais en fait, ce qu'on veut discuter plus particulièrement aujourd'hui, c'était le lancement d'une autre initiative d'Alternativa Léman qu'on appelle Alternativa au fil de l'année. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Ben, c'est que ça vient du constat que, d'une part, pendant le festival, il y avait toujours aussi des conférences, des débats, des rencontres, mais que souvent, s'il fait beau, les gens préfèrent être plutôt dehors, autour des stands, des animations, des choses qui sont à l'extérieur, et que aussi, il y a un peu l'embarras du choix par rapport aux conférences. Et on s'est dit que ce serait intéressant de les faire au cours de l'année, aussi parce que pendant le festival, les praticiens et les aficionados de chaque domaine particulier, ils sont surtout centrés sur ce domaine. Ils sont derrière leur stand, en train dans leur conférence, en train de faire leur truc. Donc, ils n'ont pas tellement l'occasion de connaître les autres. Et l'idée d'Alternativa, ce n'est pas seulement de réunir un ensemble d'alternatives, mais c'est aussi de les faire se parler, s'interagir, de créer des synergies, de façon à ce que petit à petit se construise vraiment un réseau, une alternative d'ensemble qui est vraiment fort, qui représente vraiment quelque chose de cohérent une alternative réelle à ce qui se passe dans notre région. Donc ça, pour ça, il faut que chaque domaine puisse inviter l'autre.
Exactement.
Si vous voulez. Ouais. Que les gens, par exemple, qui font de l'agriculture de proximité, ils se mettent à utiliser les logiciels libres et vice-versa.
Et ce qu'il y a d'intéressant, entre autres, là-dedans, c'est effectivement de voir que tout est quelque part connecté, que l'on est parti du climat, mais même ne serait-ce qu'avec le climat comme fil conducteur, eh bien, de nombreuses activités humaines sont évidemment touchées par cela. Et donc, effectivement, ça met tout le monde en perspective et ça mobilise tout le monde dans une dynamique commune, en tout cas. On va peut-être d'ores et déjà donner le site internet, hein, www.alternatibalaimant.org. Et puis, alors, il y a un agenda d'ores et déjà qui annonce les prochaines activités très concrètes ?
Absolument. Jusqu'en septembre, on a 5, peut-être 6 activités qui ne sont pas encore sur le site web. D'ailleurs, je...
Mes excuses.
Parce qu'on vient de... Ils vont l'être d'ici quelques jours, mais ne cherchez pas tout de suite parce qu'on n'est pas toujours très efficace. On a le flyer, mais on n'a pas encore changé le site web. La première en fait, de ces activités s'est déroulée hier soir avec ensemble avec Mon Élément. Donc c'était la venue de Rob Hopkins, personnage très connu dans les villes en transition, fondateur de ce mouvement de villes en transition. Et puis c'était pour l'annonce de la passage en numérique de la Mon Élément. Mon Élément qui a commencé en Alternative Élément en 2015. Et qui prend un essor assez étonnant, ça marche bien. Donc maintenant, ça va être possible d'avoir aussi du monnaie sur des iPhones, de façon à ne pas devoir forcément avoir des billets, ce qui va beaucoup faciliter les choses, notamment pour les commerçants. Bon, le prochain rendez-vous qu'on a fixé, là en principe, autant que possible, un mercredi du mois. Donc le prochain mercredi, ça va être le mercredi 5 avril, on va faire une soirée sur la question de la mobilité, plus particulièrement sur l'aéroport. Vous savez, il y a une initiative qui a abouti pour une gestion démocratique du développement maîtrisé de l'aéroport de Genève. Autrement dit, arrêtons la folie de la croissance qui prévoit un vol tous les 90 secondes en 2020, quelque chose comme ça. Cette initiative réunit les communes environnantes, les écolos qui se mobilisent pour des raisons de pollution ou pour le climat, et aussi, ce qui est je trouve assez intéressant, il y a aussi le syndicat SSP qui soutient cette initiative, ce qui est assez à noter, parce que il y a quelques années en arrière, les syndicats étaient pour n'importe quel emploi, n'importe quelle croissance. Ils commençaient à avoir une prise de conscience sur certains syndicats que c'est pas forcément tout emploi précaire et stupide n'est pas à prendre, quoi.
Absolument. Est-ce qu'il n'y a pas de temps en temps des petits frottements, parce que effectivement il y a tellement finalement l'Alternativa est d'une certaine manière victime de son succès, énormément de collectifs, d'associations se rassemblent, et est-ce que c'est pas des fois difficile de composer avec toutes ces sensibilités qui certes on l'a compris adhèrent à une idée générale, un fil rouge on pourrait dire, mais qui je suppose fonctionne d'une manière à chaque fois un petit peu différente ou quoi, de ce côté là est-ce que la cohésion règne au sein d'Alternativa?
Disons, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on se rend compte que, d'une part, il y a presque tous les associations qui viennent chez nous, ou les gens, ils partagent déjà le sentiment qu'on va dans le mur avec le système actuel et qu'il faut faire autre chose. C'est pour ça qu'ils ont commencé par un bout ou un autre.
Voilà, il y a un constat commun. Voilà. Qui... Okay.
Et puis, très souvent, il s'agit de commun, justement.
Eh oui.
Que ce soit l'agriculture de proximité ou une coopérative de l'habitation ou une coopérative de production ou de travail telle que Itopie par exemple qui travaille sur les logiciels libres, c'est typiquement l'exemple phare d'un bien commun nouveau, construit, moderne. Donc il y a des choses comme ça, la coopération, le souci de la relocalisation, les préoccupations écologiques, toutes ces choses-là sont presque toujours communes. Donc il y a pu y avoir peut-être des différences dans la radicalité des positions qui fait que peut-être certains seraient un peu plus... hésiterait devant certaines méthodes d'action militantes. Mm-hmm. On a aussi, par exemple, Break Free Genève, qui pratique la désobéissance civile. Ben, quand ils le font, ils sont membres d'Alternativa, mais ils le font à leur nom, parce qu'il ne s'agit pas non plus que le commerçant qui fait de réemploi de tonnerre, par exemple, pour sa contribution à lui. Ils se sont tout à coup manipulés parce qu'Alternativa est en train de faire, tu vois.
Ouais, voilà, c'est ça.
Je suis jamais pour manipuler les gens dans ce sens-là, de les impliquer dans une chose qu'ils ne ressentent pas vraiment.
Voilà, qui les dépasserait. Parce que, en fait, la question m'était venue parce que, effectivement, nous étions présents avec la radio en 2015 à Plein Palais, enfin, à côté de la maison des associations. Et à l'époque, je me souviens qu'il y avait eu, notamment à Nantes, au village d'Alternativa à Nantes, quelques défections parce que, justement, des groupes s'étaient agrégés de manière un petit peu, comment dire, un peu en sous-marin, comme ça. Et voilà, des groupes, disons, suspects, en termes idéologiques, je veux dire, hein, de droite extrême, par exemple. Et puis, justement, il y avait eu... Alors, ça s'est très, très vite apaisé, me semble-t-il, parce que, ben voilà, il me semble que la dynamique du truc, l'inertie même avec cette quantité de gens, a fait que ces gens-là se sont sentis pas du tout dans leur espace. Mais c'est vrai que je m'étais dit... Est-ce qu'il en était resté quelque chose de ces petites choses un petit peu bizarres qui ont pu se passer, de ces petites déviances ou de ces petits groupuscules qui essaient peut-être de s'infiltrer d'une certaine manière à Alternativa, mais a priori non.
Non, c'est vrai que les Alternativa, parce qu'il y a une coordination de tous les Alternativa qui continuent à se réunir tous les 3 mois environ, ils se sont quand même dotés d'une procédure d'exclusion, ce qui est un mot assez désagréable, mais ils ont dû avoir dans une ou deux occasions, je crois une occasion surtout, où il y avait vraiment des problèmes, une alternative particulière, vraiment des problèmes, et puis ils ont fait appel pour dire comment on fait quand on est confronté à des... C'était pas quelque chose d'aussi clair qu'un groupe d'extrême droite, mais c'était plutôt un groupe qui... des personnages qui bloquaient vraiment totalement le fonctionnement. Mm-hmm. Donc on peut imaginer que ça, ce genre de problème... Heureusement, on n'a pas vraiment eu ce genre de problème
à Genève. À Genève, oui, tout à fait. Et alors, justement, tu parles de ce réseau Alternativa. C'est un réseau européen ou c'est plutôt la Suisse, la France, le Pays Basque? Ou est-ce que ça s'étend encore?
Pour le moment, c'est surtout francophone, mais mm-hmm. il y a commencé à avoir comme des choses aussi, même extra-européennes. Il y a eu un Alternativa à Haïti, un autre au Sénégal, et puis je crois qu'il y en a un autre au Maroc dont on parle. Enfin, il y a des pays qui s'intéressent, enfin des endroits sur la planète où on s'intéresse à ça, qui sont assez étonnants, mais pour le moment, c'est vrai que ça reste plutôt francophone.
D'accord. Et en Suisse, alors, comment est-ce que le réseau s'est étendu? Donc, on a vu cette centralité à Genève, mais y a-t-il également, justement, des émanations d'Alternativa en Suisse allemande, par exemple, ou dans d'autres cantons?
Non, pas pour le moment. Et c'est vrai que c'est une chose sur laquelle on est censé travailler. Il y a un groupe de travail international, justement, qui s'est mis sur pied dans cette coordination pour essayer de faire passer plus loin la proposition du modèle, quoi, parce que c'est vrai que ça marche très bien.
Oui, absolument. Que peux-tu nous dire de, si très trivialement, très concrètement, voici la question, qu'en est-il resté? Qu'est-ce qui fait qu'il y avait un avant Alternativa et que maintenant on a un après premier Alternativa, je veux dire? On a bien compris, il y a le réseau qui continue de se voir, il y a cette convergence de collectifs, d'associations qui se met en place. Mais très concrètement, est-ce qu'on peut dire que ça a d'ores et déjà changé quelque chose?
Disons, apparemment, ça a changé des choses déjà pour beaucoup d'associations, dans le sens que vraiment, on a eu des retours extrêmement positifs, des gens qui ont dit vraiment, les paysans, par exemple, l'agriculture de proximité, c'était évident qu'on revient, que vraiment, pour eux, c'était utile. Mmh. Et qu'ils ont pu contacter des milieux qu'ils n'avaient pas avant.
Tout à fait.
De même, au Actif Trafic aussi, par exemple, ils ont dit, mais vraiment, c'était génial. Il y avait la queue devant notre stand pour signer la chose qu'il fallait signer à ce moment-là. C'était presque trop, ils n'avaient pas le temps de discuter avec cette année. L'année dernière, c'était un peu plus tranquille, on a pu un peu discuter un peu, mais sinon, c'était pas la cohue des gens. Donc, pour eux, c'est très positif, déjà ça.
Bien sûr.
Et puis, il y a, mais c'est à ça que personnellement, je trouve que c'est très important, le début de, justement, de, comme on disait avant, de synergie entre différentes associations, même du fait de la préparation des groupes différents, des domaines différents qui ont commencé à se connaître, et ou dans à l'intérieur d'un même domaine, par exemple, les coopératives qui sont en train de se former en masse ont entendu parler à travers, ont rencontré à travers Alternativa les coopératives d'habitation genevoises, et notamment ceux de Mérin, qui sont le quartier des Vergers, qui sont vraiment pour la région très très à l'avant-garde. En général, ça c'est une chose où les Suisses sont en avance sur les Français dans la question de la coopérative, et les Suisses allemands en avance sur les Suisses romands. C'est un truc qui vient un peu de l'Est. Donc eux, ils étaient vraiment preneurs, et ça aboutit après à une invitation de la part des coopératives de Mérin à travers Alternativa de continuer cette collaboration sur avec les coopératives qui sont en train de se mettre en place à Annemasse.
Ça veut dire que c'est cette transversalité et cet accès à l'information qui manquait et que Alternativa pallie finalement.
On essaye, oui. Ouais. Il y a des choses qui ne sont pas encore en point, qu'il faudrait qu'on fasse, notamment au niveau d'une cartographie des alternatives. On y travaille, et puis beaucoup de gens y travaillent, donc il s'agit aussi de les coordonner, de ne pas que tout le monde fasse leur centralité de leur côté. Donc c'est assez compliqué, mais ça c'est aussi un projet sur lequel on travaille.
Ça veut dire que très concrètement, avec une cartographie Alternativa, je pourrais peut-être exister entièrement mon existence d'une manière justement alternative, sans avoir, avec une empreinte vraiment très légère, et puis avec une manière totalement différente. Ce que je veux dire par là, c'est que a-t-on déjà des outils opérationnels qui nous permettent de sortir ? Parce que souvent, c'est vrai que quand on parle un petit peu comme ça d'utopie, on a envie de s'engager sur ces chemins différents. Oui. Et des fois, c'est vrai que le moment clé, c'est le moment où on se dit « Oui, mais on n'y arrivera jamais. Oui, mais on est obligé d'aller dans le supermarché, tel ou quoi. » Alors voilà, est-ce qu'au sein d'Alternativa, en plaçant bien nos pas, est-ce qu'on pourrait d'ores et déjà sortir, ou en tout cas se distancier de ce vieux monde qui naufrage ? Qu'est-ce que tu en penses ?
C'est bien l'idée. C'est très loin d'être réalisé, d'être parfait. Mais disons, c'est effectivement que si on cherche à vivre différemment. Déjà, par exemple, aussi le monnaie-élément, c'est un essai dans ce sens-là. C'est un monnaie locale, mais qui a une charte, ou en tout cas les entreprises ou les commerces, etc., qui se mettent dans le monnaie élément, sont censés au moins avoir l'intention de progresser dans une certaine direction vers certaines pratiques sociales et écologiques, même s'ils ne sont pas parfaits au départ. Donc ça c'est, et puis le monnaie élément, pour moi, c'est une des choses qui a été lancée au moment d'Alternativa, mais qui peut être une des facteurs de pour cimenter ou connecter des choses très différentes de ce genre-là.
Absolument.
Donc je pense que là il y a quelque chose de très très concret. Et puis bon, peut-être pour revenir à notre programme,
voilà,
Alternativa au fil de l'année.
L'idée c'était de lancer, voilà. Ça, c'est de dire voilà, tout au long de l'année, quels sont ces fameux moments clés où on peut, d'une certaine manière, s'informer.
L'idée, c'est que les différents domaines s'invitent les uns les autres. Donc, effectivement, il y avait la monnaie élément hier soir. Sur la mobilité, on espère que des gens intéressés par d'autres domaines se rendent compte de l'importance de cette échéance sur l'aéroport et s'y mettent. C'est aussi une chose transfrontalière, puisqu'il y aura aussi des gens du pays déjà qui s'intéressaient. Et puis, on a un grand moment qui est prévu, vraiment un coup de chance dont on va profiter sur la question de l'agriculture, parce qu'au mois de mai, plus particulièrement le 17 mai, on aura à Genève tous les leaders de la Via Campesina, qui sont venus, qui viennent pour les négociations sur le droit des paysans à l'ONU, plus des pêcheurs, les forums mondiaux des peuples pêcheurs, les nomades indigènes, enfin vraiment le gratin des mouvements paysans.
C'est splendide de lire l'information. Voilà.
Et puis on a organisé avec Unitaire, Tour de rêve, le supermarché participatif. Enfin, on a aussi des belles choses ici.
Absolument.
Une soirée autour de la question de comment relocaliser notre système alimentaire. Ouais. Donc je pense que ça va être vraiment un moment assez fort pour tous les gens qui s'intéressent à la question de l'agriculture ou le climat, mais où on espère justement que des gens qui sont plutôt dans d'autres domaines, ils viendront et en profiteront. Et puis de nouveau, le 7 juin, il y a un autre moment assez fort qui concerne les alternatives informatiques, parce que notre partenaire à Alternativa, Itopie Informatique, c'est une coopérative qui est spécialisée dans la récupération et la revente de l'ordinateur d'occasion et dans les logiciels libres, donc ils équipent avec les logiciels libres. Ils sont membres ils participent à une initiative qui s'appelle Dégooglisons Internet, qui est lancée par Framasoft en France. C'est une association de logiciels libres et d'alternatives. Y a quelqu'un de Framasoft qui va venir pour une soirée avec Itopie.
Regarde nos yeux intéressés, nous à la radio qui fonctionnons effectivement également avec des trucs comme ça. Framasoft, pour nous, c'est à peu près la Mecque.
Oui, ils font du super travail. Donc l'idée, c'est d'interpeller un peu tous les gens de Alternativa, les autres qui peut-être par ignorance ou par opportunisme, toutes ces parties qui ne sont pas au courant, sont en train d'utiliser Google Docs et machin, quand ils pourraient en fait se mettre à LibreOffice ou plutôt comme Microsoft, etc. Mm-hmm. Donc ça, c'est typiquement un exemple typique de ce qu'on entend par renforcer le réseau, dans le sens où on arrive à convaincre un certain nombre de gens de faire le pas. Il y a un petit effort à faire, mais donc peut-être un moment fort comme ça, voilà, les gens vont le faire.
Ce serait bien qu'on soit là pour relayer ce truc quand même. Bref. Et puis alors ensuite, la désobéissance civile, meilleur espoir pour le climat, action directe non violente et mobilisation pour Ende Gelände au mois d'août 2017.
Oui. Alors, Ende Gelände, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une des initiatives allemandes absolument extraordinaires. Ils ont occupé maintenant à deux reprises des mines de charbon à ciel ouvert à plusieurs milliers de personnes. La première dans le Rhineland, et puis la deuxième l'année dernière au sud de Berlin, presque en Pologne. Là. J'y étais avec quelques personnes d'Alternativa. C'était absolument extraordinaire. 3000 personnes occupées pendant un week-end, bloquées toutes les machines énormes et tout. Enfin, c'était... Et puis les Allemands, qui s'organisent de façon absolument incroyable, tout un village, enfin, vraiment extraordinaire. Et puis ils vont remettre ça fin août à de nouveau Rhineland, donc c'est pas si loin de Genève. On espère bien organiser un bus qui part de Genève. Et donc il s'agit un peu de mobiliser, faire connaître cette forme d'action extraordinaire. Le 5 juillet, on a prévu effectivement de montrer le film des Alternativa et Iritsina, un film qui a été fait sur le mouvement, et faire venir quelqu'un d'Ende Gelände pour témoigner autour et parler de la désobéissance civile comme arme de choix par rapport au changement climatique.
Tout à fait.
Peut-être qu'il faut mentionner, puisqu'on ne l'a pas fait jusqu'à présent, on n'a pas encore les salles, mais normalement, toutes ces choses-là vont se passer à l'université. On n'a pas encore la salle, sauf pour le, sauf pour l'agriculture, ça va être à Unimail, en la salle 150, le 17 mai. Mm-hmm. Sinon, les autres dates sont fixées, mais pas pour les salles. Mais en principe, ça va être chaque fois à l'université
de Genève. Voilà. D'accord, ok. Et puis, alors voilà, il y a, pour en terminer, et c'est la transition avec le sujet que l'on voulait aborder, enfin, en tout cas, initier aujourd'hui, et puis on en reparlera bien entendu en d'autres occasions, mais c'était, voilà, le pipeline, DAPL, la Standing Rock, donc les tribus Sioux qui sont, comment dire, qui étaient en lutte jusqu'à encore assez récemment, et évidemment avec quelques victoires, hein, qui avaient quand même émaillé leur lutte, et puis avec cette catastrophe de l'élection de Trump qui a tout remis en question.
Oui, alors là, on est de nouveau dans la question de la désobéissance civile. Mmh. C'est un peu notre Trump card, on pourrait dire. S'il faut que ceux qui connaissent l'atout, pour traduire en français, de la saison, parce que nous sommes en train d'organiser ensemble avec d'autres villes, d'autres alternatives à d'autres villes et d'autres organisations, une tournée en Europe d'une délégation du peuple Sioux de Standing Rock pour parler de cette lutte extraordinaire qu'ils ont montée. Je ne sais pas si nos auditeurs le connaissent déjà, mais
On a pu déjà aborder.
Mmh. C'est quand même, ils étaient jusqu'à 15 000 dans un village au milieu de nulle part pour défendre leur terre contre ce pipeline. Ils ont résisté à les froids sibériens, à être arrosés par les flics d'eau à moins 10, enfin des violences incroyables. Et ils ont dû résister pour pratiquement une année. Ils ont arraché une victoire d'Obama à la fin, qui a été évidemment, comme tu viens de dire, a été annulée par la venue au pouvoir de Trump. Donc c'est vraiment, s'il y a quelque chose qui est paradigmatique et exemplaire par rapport à la lutte pour le climat, la désobéissance civile. Donc ça s'est combiné à la fois la désobéissance civile avec toute une campagne aux États-Unis de désinvestissement des boîtes concernées, qui a très bien marché aussi. Oui. Rien que la ville de Seattle, par exemple, a été poussée à désinvestir 3 milliards de dollars qu'ils avaient investi dans une banque impliquée là-dedans. Donc c'est vraiment une chose très très forte. Alors, pour nous, c'est vraiment l'occasion de relancer cette lutte et ces formes de lutte partout en Europe. On peut penser qu'ils ont perdu, mais en tout cas, eux, ils refusent de penser qu'ils ont perdu.
Ouais, tout à fait.
Peut-être que le pétrole va couler dans le pipeline bientôt, dans ce pipeline-là, mais eux, ils disent vraiment ça continue. Il y a une des femmes il y a beaucoup de femmes dans cette affaire-là qui mènent cette lutte. On lui a demandé quand est-ce qu'elle serait contente, qu'est-ce qu'elle accepterait comme résultat de cette lutte. Elle a dit quand le dernier pipeline a été arraché de la terre de Turtle Island,
c'est bien, ça veut dire qu'on n'est pas prêt de s'arrêter. Non, mais c'est vrai que c'est particulièrement emblématique de cette époque où vraiment on va à l'encontre du bon sens, où on favorise encore des hydrocarbures alors qu'on sait bien que ça va dans le mur quoi qu'il en soit. On n'hésite pas à polluer des nappes phréatiques. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une absurdité telle qu'on peut s'imaginer que le sens de l'histoire fasse qu'à un moment donné, cette victoire soit nôtre, j'espère.
Forcément. Vous savez, le président de la Banque d'Angleterre, entre autres, il a une conférence sur YouTube, on peut voir, où il a averti la Lloyds, donc la plus grande compagnie d'assurance, que tôt ou tard, il y a une bulle de carbone qui va éclater, parce qu'il dit, le GIEC est clair, il faut laisser 80% des énergies fossiles dans la Terre si on veut éviter une catastrophe climatique. Et il disait, mais d'ici 2030, les désastres vont devenir tellement évidents que tôt ou tard, le public va imposer un arrêt. Et à ce moment-là, la valeur de toutes ces actions dans le pétrole va tomber.
Ils vont s'effondrer. Et
le subprime sera rien à côté. Ça va être un désastre généralisé et qui commencera avec le pétrole et qui peut aller beaucoup plus loin. Donc il disait pour les raisons, il dit bon, financières, il faut commencer à penser à ça. Mm-hmm. Donc le campagne de désinvestissement. Et il parle aussi de ça aux banquiers parce que c'est juste insensé de continuer. Ils sont vraiment dans le court terme et dans le déni, autant comme M. Trump. Quoi.
Complètement. Et puis dans une disproportion des moyens tels, si, parce que là, on ne l'a pas évoqué, mais on en reparlera, mais le gaz de schiste, typiquement, on a des extractions complètement démentes qui nécessitent de telles quantités de produits, enfin des choses vraiment
absolument
absurdes.
Et puis les sables bitumineuses,
exactement,
je crois que c'est 50 fois plus polluant et ça utilise des centaines de tonnes d'eau pour chaque
forage, pour chaque tonne de
pétrole. Et puis là, Monsieur Trump vient aussi d'autoriser le fameux pipeline Keystone qui doit aller depuis le nord du Canada jusqu'au golfe du Mexique. Ouais. Partout au Canada, aux États-Unis, il y a notamment les groupes autochtones, mais souvent alliés avec les cowboys, avec les blancs locaux, qui sont en lutte contre ces projets de pipeline, qui vont vers le Pacifique, qui vont vers l'Atlantique, qui vont vers le Sud. Enfin, vraiment, c'est un démentiel. Et je pense que c'est là que va se déterminer beaucoup de choses pour le climat, pour le monde entier. Donc, il faut aussi soutenir ces luttes.
Absolument.
Ici, en attaquant les banques françaises, suisses, etc., qui financent. Il y a au moins une douzaine de banques, grandes banques françaises et suisses qui sont là-dedans.
Tout à fait.
Parce que c'est notre affaire, quoi.
Absolument. Et ça, c'est un des rôles, justement, d'Alternativa, c'est d'alerter et de dire des alternatives existent. Alors, informez-vous, contre-informez-vous. Et puis, on peut changer notre comportement au quotidien, de plus en plus, et puis éviter justement ces pièges, et puis se réunir pour justement peut-être arriver à peser sur des leviers qui vont faire changer les choses, avant que la catastrophe nous oblige de les changer, quoi qu'il
exactement
en soit.
Exactement.
Merci beaucoup, Olivier de Marcellus, pour ton intervention aujourd'hui. On reviendra là-dessus, parce qu'effectivement, on aurait pour des heures à parler de tout ceci. On reviendra bien entendu ultérieurement sur Alternativa, également sur Standing Rocks et d'autres sujets. On va peut-être juste rappeler le site internet sur lequel, on l'a dit, les informations ne sont pas encore compilées, mais ce sera, j'imagine, dans quelques jours que ce sera, voilà, que ce sera fait. Donc c'est www.alternativaleman.org.
Exactement.
Que faut-il dire d'autre?
Peut-être juste par rapport la tournée des Sioux pour Standing Rock, ça va certainement être à Genève à partir du 6 juin, sur les premiers jours de juin, parce qu'il y a une session de l'ONU justement sur la soi-disant responsabilité des transnationales qui s'ouvre le 6 juin à Genève. Donc on va essayer de calculer la tournée pour qu'ils finissent à Genève.
Au bon endroit, au bon moment.
Voilà.
Ok, merci beaucoup et à bientôt en tout cas. Et courage pour tout ce qui t'attend.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
À bientôt.
À bientôt. Alors on y va avec une petite pause musicale. Et juste derrière, eh bien, la suite des opérations. Nous allons parler notamment des offices de poste qui disparaissent à Genève. Nous allons parler avec l'association un quart d'heure depuis l'usine ici à Genève. Et nous parlerons ensuite de l'IWW. L'Industrial Workers of the World. Mais avant ça, une petite musique. Et pour terminer en beauté et en guise de clin d'œil à Alternativa, on s'écoute Ascata Sunera c'est l'Ascusi en Corse. C'est une chanson basque au départ qui est partagée avec des Corses, en l'occurrence. C'est parti.
Mandi cogi sonai,
o da paese come si chiama,
e uscadi e ne riada. Nor sarà,
e uso corre su,
lungo a sarà,
vengo da un paese,
senda su re riate in sena,
o mio paese di Corsica.
Vai da Nereria, vai na Nesquara, peti bisida, Nesqualduna chi sana i dugu, Neshoa che c'è anna i dugu. Scusa, scusa, scatta sulle dame.